Débat IMO, une émission proposée par Wininvest sur Radio IMO et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour les amis, merci d'être avec nous pour ce 10e numéro, la 10e étape de Débat IMO, une collection conçue avec Wininvest France, la thématique du jour. Voilà, pour ce 10e numéro, immobilier et intelligence collective, peut-on encore travailler en solo? Voilà, je vois les sourires qui s'inscrivent sur les lèvres de mes invités, je suis ravi de vous retrouver. Je vous rappelle les amis que le podcast est bien sûr à télécharger sur toutes les plateformes d'écoute. On est heureux de partager ce moment avec vous, avec nos experts. On va décrypter justement cette actualité de finalement parler d'immobilier et d'intelligence collective. Je voudrais juste faire une toute petite assertion. Celui qui a introduit l'idée de l'intelligence collective, c'était Michel Serres, le philosophe qui était mathématicien, qui avait pensé finalement le 21e siècle comme étant l'intellectuel collectif. Et que la complexité aujourd'hui de nos sociétés fait qu'on est toujours meilleur en intelligence collective. Et c'est bien ça dont on va parler. Est-ce que effectivement on peut encore travailler en solo ou travailler dans le collectif? Voilà. Un débat avec bien sûr des experts comme chaque numéro. On fait au sommaire également l'édito qui est introduit par notre ami Xavier Belbeau qui est avec nous sur le plateau, directeur général de Wininvest France. Comment il va, Xavier, aujourd'hui?
Il va très bien, Sylvain.
Heureux.
Merci beaucoup.
Voilà.
Heureux en cette fin d'année.
Voilà, en cette fin d'année, un peu compliqué parfois, mais toujours résolument optimiste. Voilà, fondatrice de Sandra Biricelli Immobilier, présentatrice télévision sur M6, qui écrit des livres, qui est quelqu'un aujourd'hui qui irradie littéralement de son professionnalisme la planète immobilière. Sandra Biricelli, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va, Sandra?
Ça va bien.
On est toujours ravis de vous recevoir sur le plateau. Dan Adler, bonjour.
Bonjour, Sylvain.
Voilà, Dan Adler, voilà, c'est la classe incarnée, le professionnalisme. Il a créé son groupe qui s'appelle De Faire la Immobilier. Aujourd'hui, quoi, une quinzaine d'agents?
8 pour l'instant.
8 agences, voilà, réparties sur l'ensemble du territoire francilien et surtout à Paris. Hein, mais je pense
Exactement.
Que vous allez vous attaquer bientôt à la France ou le reste.
Partout.
Voilà, partout,
c'est
tout simplement.
L'objectif.
Un petit clin d'œil à votre épouse avec qui vous avez cofondé le groupe, c'est Laetitia Adler. Merci en tout cas d'être avec nous. Je sais que vous êtes très branché sur cette thématique. Alors, Romain Cartier, coach en immobilier, qui sera avec nous tout à l'heure. Romain, que vous connaissez bien.
Ah oui,
je parce que vous faites quelques émissions en commun. On est ravis en tout cas de le recevoir. Il n'a pas pu être présent physiquement sur le plateau. Et on va le voir tout à l'heure. On avait besoin d'un sociologue aussi sur le plateau, chercheur en sociologie au laboratoire IDES, consultant sociologue chez VETA. Vous êtes spécialiste de l'évolution des métiers et méthodes d'aménagement des espaces de bureaux. Alexandre Butin, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous éclairer.
Merci de l'invitation.
Voilà. On a besoin aussi de cette réflexion pour penser finalement encore l'intelligence de l'espace, de l'intelligence collective, de, effectivement, il vaut mieux travailler seul ou en commun. D'ailleurs, on est dans un espace ici, dans nos studios, qui est un espace de coworking, voilà, où on travaille en commun. C'est aussi une façon de partager les choses. On écoutera tout à l'heure notre ami aussi Guillaume Four, directeur des partenariats bancaires de Meilleur Taux. On parlera des taux, bien évidemment, sur l'immobilier. On parlera également dans la séquence du Lab avec Cyril et Nicolas Fortin, les cofondateurs de Mon Hub Immo. Mais tout de suite, on va attaquer l'édito avec Xavier Belbeau. Et tout de suite, on retrouve, comme chaque numéro de Débat IMO, l'édito avec vous, Xavier.
Merci. Alors aujourd'hui, d'habitude, j'ai mes petites fiches, je prépare, et cette année, sur cette émission-là, je m'étais dit, c'est la dernière de l'année, je vais plutôt y aller avec mes souvenirs, car le sujet m'intéresse beaucoup et m'interpelle. Je réfléchissais tout à l'heure, ça fait 31 ans que je travaille, voilà, très exactement, j'ai commencé à 15, j'en ai 46, et j'ai eu la chance de faire plusieurs métiers. J'ai commencé en sommellerie, j'étais le plus jeune directeur du groupe Baccarat. Ensuite, je suis rentré en immobilier d'entreprise chez Auguste Thouars, qui est devenu Arthur Lloyd. Et puis ensuite, je suis resté dans un groupe qui s'appelle Michel Simon, et puis après Orpi, puis maintenant Wininvest. Et j'étais en train de me dire qu'à aucun moment, j'ai été seul, en réalité. Et j'ai vu, par contre, pendant 15 ans, j'ai coaché des dirigeants d'entreprise de différentes tailles, allant de 200 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'à plus de 15 millions. Et j'ai vraiment découvert qu'il était compliqué pour certains dirigeants, en fait, de déléguer, d'écouter, d'accompagner, qu'on avait des personnalités qui n'étaient pas faites pour, en l'occurrence, s'entourer de collaborateurs. Et j'ai découvert avec les années qu'en fait, il existait différents types qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend l'immobilier, si tu es conseiller agent co, agent commercial indépendant, et que tu deviens dirigeant d'une entreprise, on t'a pas expliqué. Donc tout d'un coup, il faut partager tes mandats, il faut partager la pensée, il faut pouvoir en fait accepter le regard des autres, même si à la fin, tu es décisionnaire. Et je me suis dit que quand même, je dirigeais la coopérative Orpi, qui je pense qu'on n'aura pas besoin de présenter, j'ai appris qu'on était obligé par moment de faire ce qu'on appelle des sacrifices, entre guillemets, par rapport à nos pensées, si on voulait aller au bout, voilà, d'une idée, d'un sujet, et que toutes les idées étaient bonnes à prendre, et qu'on n'avait pas, en tout cas, toujours la science infuse. Et heureusement, on a eu pas mal d'IA comportementale qui est arrivé ces dernières années, hein, on en passe, pour aider. Et je me suis aussi rendu compte que par moment, des personnes s'associaient ou travaillaient ensemble, et qu'on n'avait pas les bonnes personnalités, ou on avait des personnalités qui n'étaient pas complémentaires. Voilà. Donc je suis très content qu'on aborde ce sujet aujourd'hui, et qu'on puisse ouvrir le débat.
Merci beaucoup, ça augure bien des débats passionnants. Voilà, justement, place au débat. On va essayer, si vous voulez bien, je vous propose qu'on adopte une règle du jeu, vraiment qu'on se dise les choses, voilà, qu'on essaye de pas travailler sur des clichés de management, des poncifs un peu répétitifs, mais que vraiment, on essaye de faire se détacher, parce que c'est le danger quand on fait ce genre d'émission, quand on parle de management ou de gestion du collectif, voilà, de tomber dans des autoroutes de pensée, etc. Ça, c'est intéressant d'imaginer pourquoi c'est important, par exemple, si on prend l'option de dire que le collectif, c'est hyper important, que le fait de partager, de transmettre les savoirs, c'est aussi un sujet important. Chez WeInvest, il y a quelques... Alors, en même temps, je suis pas complètement objectif, puisqu'on se connaît bien avec Xavier Belbeau, et donc je connais ses valeurs, sa mentalité et son engagement. Je vais même aller jusqu'à parler d'humanisme. Voilà, il y croit. Donc il est pas encore blasé par tout cela, etc. Mais je peux pas m'empêcher de faire la relation de cet engagement, du collectif qui est au cœur du modèle de WeInvest, sans le détacher des valeurs qu'a le dirigeant, le manager. Vous voyez ce que je veux dire, Xavier? Et je crois qu'il y a un lien, à mon avis, qui est poreux, parce que je pense qu'on peut pas forcément toujours tout cloisonner dans sa vie, entre ce que l'on est au fond de soi, dans sa façon d'être, hein, en tant qu'individu, ses valeurs que l'on porte, et le modèle d'entreprise que l'on choisit d'animer. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je crois qu'il y a un lien direct. Et moi, qui connais bien Xavier, je pense qu'il y a un lien direct entre sa capacité ahurissante de diriger un réseau, ce que vous avez fait, Xavier, en un an, c'est juste incroyable, et en même temps, le côté des valeurs humaines que vous injectez, et de l'exigence que vous injectez. Et je vais juste ajouter un truc pour compléter, je vais vous laisser la parole pour commenter. C'est que je vous ai vu mettre beaucoup d'exigences sur vos collaborateurs, entre conjuguer le souci des hommes et des résultats. Mais ce que j'ai vu d'abord, c'est que vous l'avez imposé à vous-même. Vous vous êtes d'abord imposé à vous-même. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement vertueux dans l'idée d'abord, préalablement, de s'imposer à soi-même un régime presque athlétique de management quand vous dirigez votre réseau. Alors encore une fois, ceux qui nous écoutent diront qu'il n'est pas tout à fait objectif, parce qu'il est évident que je vous aime beaucoup. Mais voilà, Xavier, un commentaire, parce que c'est important quand même.
Déjà, je commence l'émission gênée.
Non, mais le lien entre les valeurs. Non, mais le lien, Xavier, entre les valeurs et cette gestion du collectif qui est au cœur du modèle.
Ouais, après, je sais pas, mais et j'ai hâte de vous entendre, mais dans toutes les entreprises que j'ai pu voir, et en tout cas dans celles que je dirige aujourd'hui, je pars d'un principe, c'est que les collaborateurs sont le reflet du dirigeant. Les dirigeants n'est pas toujours le reflet des collaborateurs, mais les collaborateurs sont le reflet des dirigeants. Et donc, quand vous arrivez dans... Peu importe, que ça soit un commerce, que ça soit une entreprise, souvent, quand vous voyez l'attitude des collaborateurs, par à la fois leur bien-être, s'ils sont investis, s'ils se sentent incentivés et partie prenante d'un projet, c'est pas du tout la même chose. Et je le vois toujours, et je dis toujours, quand par exemple j'ai quelqu'un en période d'essai, au bout d'un mois et demi, si la période est dans votre entreprise, c'est marrant, je renouvelle pas la période d'essai, j'arrête. Parce que je me dis, si en un mois et demi, j'ai pas été capable de lui passer les valeurs où elle a l'impression qu'elle a besoin de se dire, qu'elle doit dire nous, indirectement, ça doit arriver à nous et pas votre, je me dis, j'ai raté quelque chose ou alors on n'a pas compris quelque chose.
Ça veut dire quoi, incentiver, pour ceux qui nous écoutent?
Motiver, réussir, en fait, à challenger, à faire en sorte que la personne puisse avoir un but professionnel. Et ce que je dis souvent dans une entreprise, il faut savoir accompagner un collaborateur, le faire évoluer, mais il faut aussi savoir l'accompagner, le faire évoluer pour partir. Et souvent, ça, c'est un problématique qu'ont les dirigeants. Moi, j'ai jamais eu de problème à me dire, à un moment, le collaborateur, en fait, il est arrivé à son plafond de verre ou alors il s'ennuie. Tiens, qu'est-ce que je peux mettre en place? Est-ce qu'on lui fait pas un bilan de compétences, etc., pour qu'après, il puisse se réorienter dans sa carrière? Donc, je pense que déjà, il y a ce premier phénomène.
Vous allez jusqu'à dire qu'il est dans la mission également du manager d'accompagner la sortie.
En tout cas, c'est dans la mienne pour la simple et bonne raison que quand un collaborateur vient, pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe, il va donner de son temps, il va passer plus de temps avec nous qu'avec sa propre famille par moment. Donc je trouve qu'on a, en tout cas c'est mon opinion à moi, elle n'engage que moi, qu'on a un devoir en fait de respect et d'accompagnement mutuel. C'est-à-dire qu'à un moment, on a le droit de plus être d'accord. Et moi, je pars toujours d'un principe qu'un collaborateur, quand il arrive, de toute façon, il partira à un moment ou à un autre. Voilà. Et si on veut faire en sorte qu'il parte dans les meilleures conditions, c'est aussi à nous de pouvoir l'accompagner. Voilà. Je pense que ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, il est vrai qu'aujourd'hui, je ne recrute plus de collaborateurs sans qu'il ait rencontré l'ensemble des équipes avec qui il va collaborer. C'est-à-dire que pendant des années, quand j'ai commencé ma carrière, et à 21 ans, quand tu diriges plus de 200 personnes, voilà, à un moment, tu peux vite devenir un peu taré, ce qui n'a pas été mon cas. Mais je me suis rendu compte que quand je recrutais quelqu'un pour une mission précise, qui n'allait jamais en plus être en front avec moi, ben je la recrutais, voilà, et puis pas de problème. Et ben au fur et à mesure des années, j'ai découvert que par moment, ça avait ses limites. Tu pouvais très bien, un collaborateur, tu pouvais très bien matcher avec toi, mais comme au quotidien, il va pas bosser avec toi et qu'il est rattaché à quelqu'un d'autre, même s'il a les mêmes valeurs, ben c'est pas la même énergie, c'est pas
question,
la même personnalité.
Question, si vous le recrutez, vous êtes OK, et que l'équipe dit c'est moyen.
C'est arrivé, et je n'ai pas recruté. Voilà, pour la simple et bonne... Sauf si vraiment j'ai le sentiment... Au fond, alors c'est tout bête, je suis un instinctif, donc au fond de mon ventre, que voilà, c'est la bonne personne pour la mission précise et que j'ai envie. Et ça m'est arrivé de pas m'écouter, et je pense qu'on en parlera de, à un moment, on se donne tous des règles, et bah, y a des moments où on les digresse, il faut des exceptions pour faire des règles. Et moi, ça m'est arrivé de pas écouter mes équipes. 4 mois plus tard, j'ai pleuré. Mais vraiment, parce qu'en réalité, j'avais mis ce qu'on appelle le loup dans la bergerie, c'était une catastrophe. Tout le monde commençait à se chahuter. Pour un oui, pour un non. Et c'est aussi pour ça que j'ai découvert des outils qui permettaient, en fait, de nomenclaturer un tout petit peu les profils des collaborateurs. Et je me suis dit, bah, c'est terminé, c'est une règle pour moi, je ne recrute plus sans que mes autres collaborateurs...
Je reviens, et vous me répondez tout à l'heure à la question de l'exigence personnelle, parce que je suis persuadé qu'il y a un lien. Sandra, on se connaît bien, ça fait quelques années, vous nous avez beaucoup aidé, d'ailleurs, sur Radio Imo à venir à chaque fois avec beaucoup de gentillesse, c'était pas évident, parce que vous êtes toujours très sollicité, mais vous avez toujours répondu présent, non mais c'est important, ça va, c'est toujours mieux en le disant. Vous savez qu'on, quand on aime les gens, il faut leur dire qu'on les aime.
T'inquiète pas, Dan, on ne te fera pas rougir.
Voilà. Alors, vous êtes entrepreneur, personnalité médiatique, c'est une belle réussite, et c'est une réussite à partir de rien, ça je le sais, parce que je connais votre histoire, mais vraiment rien, hein. Je veux dire, même le rien, elle l'avait pas, quoi. Je veux dire, voilà. Elle avait 3 fois rien. Mais comme dirait Raymond Devos, 3 fois rien, c'est déjà quelque chose. et donc, c'est une vraie... Avec deux choses que je connais bien, et justement, je voudrais avoir votre avis, parce qu'on vous connaît bien, mais on vous connaît que... On connaît Sandra que par le sourire, en fait. On ne connaît Sandra que par le côté luminosité, etc. Et je pense pas qu'on puisse vous réduire exclusivement à ça, c'est ce que je veux dire, en fait, passer comme message. Vous n'êtes pas réductible uniquement à cette image que l'on perçoit, toujours de bonne humeur, très bien mis, etc. Je pense que on a tous des personnalités plus complexes, ce que je veux dire. Mais il y a une chose que je ressens chez vous, bien évidemment, c'est justement cette valeur humaine, côté humaniste. Ça, c'est absolument vrai. Je l'ai vu très concrètement avec vos collaborateurs, avec la façon dont vous travaillez, dans la façon également dont vous gérez votre vie personnelle et professionnelle, sur lesquelles vous êtes alors là extrêmement équilibré, justement. Il y a quelque chose auquel vous tenez. Moi, la question que je vous pose, justement. Avec le succès, parce que c'est un succès, bravo, donc c'est aussi le fruit de longues années de travail. Question, comment on fait pour faire coïncider tous ces univers qui sont parfois antagonistes, et surtout, l'importance de vos valeurs sur lesquelles, je sais, moi, pour vous avoir vu travailler, sur lesquelles vous n'avez jamais transigé. Comment vous adoptez ces règles-là, vous, par votre propre exigence personnelle, et comment vous la transmettez à ce collectif, puisqu'ils sont assez nombreux aujourd'hui à être autour de vous.
Alors, ils sont nombreux. Alors, moi, je conçois pas déjà le métier sans un collectif. Voilà. Je pourrais pas aujourd'hui travailler seule dans mon coin. Je l'ai fait un quelques temps, mais c'était pas du tout mon ADN. J'ai créé une équipe autour de moi et je les remercie parce qu'il y en a pour certains qui sont là depuis longtemps. Et en fait, j'avais pas de règles. Tu parlais tout à l'heure des règles de management et autres. Moi, j'ai démarré, j'ai fait un petit peu ça, comme ça venait, et j'ai découvert, en fait, les failles, les difficultés à créer une équipe, à garder un équilibre parce que on est quand même des individualités assez fortes dans notre métier, parce qu'un commercial, ça reste quelqu'un de libre, que tu peux pas enchaîner, que tu peux pas cadrer complètement. Il faut lui laisser sa personnalité, lui laisser sa liberté. Et c'est vrai que dans notre job, de créer une équipe et une cohérence, c'est parfois compliqué. Et c'est vrai que je m'attache à ce que, à la fois, on soit tous différents, et on l'accepte tous, mais en même temps, on a tous le même intérêt, la même envie et surtout les mêmes, je dirais, valeurs dans notre métier. Et c'est ce qui fait que ça a donné une cohésion à l'équipe et un intérêt général de travailler ensemble. Et parfois, j'ai fait rentrer justement le loup dans la bergerie, mais des gens qui étaient trop indépendants pour pouvoir être avec nous, ou trop vénal, ou trop... Et ces personnes-là ne s'adaptaient pas du tout à notre modèle.
Juste, vraiment, pour être très précis, pas surfait, quand on dit trop vénal, ça veut dire que c'est une attirance particulière sur l'argent.
Ouais. Il n'y a que l'argent qui compte. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi l'affaire, le côté c'est mon mandat, c'est ce côté très fermé.
Approfondissons. Voilà. Quand on dit vénal, c'est pas uniquement l'appétence,
c'est pas uniquement
c'est-à-dire
le
c'est une vision relativement égoïste du partage, du travail qui se pense en collectif. Vous avez répondu, c'est mon mandat, c'est à moi, c'est à si,
etc.
C'est pourquoi lui et pas moi, etc.
Et alors, nous, on bosse pas comme ça. L'idée, c'est de garder un équilibre. Il faut mettre des garde-fous et des cadres, justement, pour que tout se passe bien et qu'il y ait pas, il peut toujours y avoir des petits litiges sur des secteurs, sur des mandats, sur d'où vient le contact, etc.
Le partage.
Mais il y a un moment quand on a tous la même vision et quand on en parle et qu'on est sur un même mode de fonctionnement, on va dire, même si les individualités sont différentes,
objectivement, ça
fonctionne.
Ça
fonctionne.
Vraiment.
Ça fonctionne. Oui, bien sûr, ça marche hyper bien.
Mais qui est garant de ça?
Alors,
c'est
pas forcément.
Non, mais c'est vous.
Voilà, le responsable. Puis après, c'est un échange entre eux. Alors, je sais qu'aujourd'hui, tu vois, tu parlais de ma médiatisation. Mmh. Souvent, on est sollicité, on n'est pas là. Et je sais qu'aujourd'hui, l'équipe, elle est capable limite de tourner sans moi. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'on a créé une espèce d'interaction, je dirais entre guillemets, c'est notre mode de fonctionnement.
Pardonnez-moi,
une famille immobilière.
Excusez-moi, Sandra, j'insiste sur les mots. Limite. Elle peut tourner sans vous ou elle est limite à pouvoir tourner sans vous?
Elle peut tourner sans moi.
Voilà. Mmh. Les mots ont du sens. Aujourd'hui, vous avez... Non, mais c'est important. Est-ce que je peux vous dire, est-ce que vous avez une équipe qui est capable aujourd'hui, si vous n'y êtes pas, de tourner aussi bien que si vous y étiez?
Je pense. Et je leur fais confiance pour ça, d'ailleurs.
Et quand vous faites, justement, je voudrais avoir votre avis, et je reposerai la question à Xavier, sur l'importance d'être soi et de la porosité. Vous savez, souvent, moi, je suis d'une génération, on disait, il y a le boulot et il y a le perso. Tu mélanges pas les deux.
Alors, c'est difficile sur une équipe.
Ensuite, il y a une école de école de management nouvelle, de votre génération plutôt, des beaucoup plus jeunes, qui disent, on est à l'intérieur ce que nous sommes à l'extérieur. Autrement dit, on rend poreux les univers. Ça veut pas dire qu'on les mélange.
Non, mais
ça veut dire que ce que nous sommes dans la vie est aussi l'illustration. Moi, je vois pas quelqu'un qui est bon père de famille à la maison et qui est un véritable salaud sans scrupules dans le business, par exemple. Je caricature volontairement. Justement, est-ce que ça vous y tenez et est-ce que vous arrivez à le faire passer ou est-ce que pour vous il n'y a pas de débat sur le sujet?
C'est le côté perso est assez présent parce qu'on partage des moments de vie forcément dans le travail, des bons moments, les mauvais. On a eu des mariages, des décès, des maladies, des accompagnements. Et en fait, on s'accompagne, c'est un peu ça. Après, ma taille d'agence fait qu'on est dans ce système-là. Je pense que quand on atteint un certain niveau de taille ou de personne,
Vous êtes combien?
On est 10, donc.
Vous pourriez très bien.
Je suis pas tout à fait d'accord là-dessus parce qu'en réalité, là par contre, je reviens sur un sujet qui est les valeurs intrinsèques qu'on a. Et je pense que si on a nos collaborateurs qui respirent les mêmes valeurs, peu importe qu'on soit 10, 20, 50 ou 100, en réalité, les valeurs intrinsèques de l'entreprise, elles sont là. Les moments de vie, tu les partages de la même manière.
Je veux dire, le perso,
il sera moins là.
T'évolues, mais
pas au point de rester, enfin, de changer. Je pense que tu peux pas changer qui tu es.
Non.
Moi, je pense que la famille. Changer ton attitude, quand même.
Vous avez
parlé. Tu peux prendre du recul.
Vous avez parlé de familiarité. Il y a une technique de management, dans les pays anglo-saxons, qui dit la chose suivante, familiarité breeds contempt. C'est-à-dire que la familiarité génère le mépris. Et en fait, les gens confondent la familiarité et la convivialité. Mmh. Et souvent, je vais vous donner un exemple. Moi, dans mes modes de management, j'ai toujours demandé aux gens de me tutoyer. Et à un moment donné, j'ai vraiment réfléchi. si je devais perdurer dans l'idée du tout au moment, pour le, parce que ça créait, finalement, ça enlevait une barrière dans laquelle on pouvait générer facilement la familiarité. De la familiarité, il n'y a pas loin avec la sortie, hein, justement dans le rapport que l'on a avec les gens, parce qu'ils abusent parfois de la gentillesse des personnes. Il y a des choses qui laissent passer les choses une fois, deux fois, mais pas trois. Et en fait, on doit imposer cette règle-là, parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout. Dan Adler. Dan Adler, alors, bon, moi je te connais bien, puisque ça fait des années. Avec Laetitia, vous avez bâti cette réputation sur un très haut niveau d'exigence. Et c'est vraiment un dénominateur commun. Alors, souvent, on te dit, Dan, que tu fais du luxe, du prestige, que c'est très... Mais pas du tout, parce que souvent, tu dis, non, mais on peut, absolument, et tout le monde a le droit de passer la porte, de faire l'immobilier. Non, mais j'aime bien cette façon un peu décomplexée par rapport à l'image que dégage, effectivement, de faire l'immobilier, parce que c'est quand même un défilé de mode quand on va dans une agence de faire là. C'est extraordinaire, c'est... classe, c'est sobre, ils sont magnifiques. Enfin, franchement, je suis épaté, c'est l'appartement témoin, en fait. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes réparti le travail avec de faire là. Je sais que Laetitia, elle manage et elle forme beaucoup les collaborateurs. Mais c'est un truc vraiment de fou. Et c'est quelque chose qui peut expliquer dans l'esprit collectif le succès de faire là.
Ouais, bah c'est indispensable, c'est-à-dire que on peut pas intégrer quelqu'un et le lâcher dans la nature, ne pas le former. Alors c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir monté ce groupe avec mon épouse, donc on est associés, et c'est vrai que chaque collaborateur qui intègre le groupe, eh ben il passe entre les mains de Laetitia qui va s'occuper de la formation commerciale essentiellement. Et en fait, c'est vrai qu'on a pas mal de hiérarchie dans le groupe, c'est-à-dire que dans chaque point de vente, on a des directeurs qui sont là vraiment pour gérer l'opérationnel. On a Laetitia qui s'occupe de la formation commerciale. Moi aussi, j'ai mon rôle, bien entendu, pour animer le groupe. Et en fait, il y a des savoirs qui se transmettent un petit peu partout dans le groupe. Et c'est indispensable. On est très exigeant, mais on fait en sorte aussi de transmettre
cette exigence, vous l'imposez d'abord à vous-même.
Ouais, bien sûr.
Je vois bien. Parce que vous avez une vision presque. Moi, j'aime bien le mot athlétique. Xavier, il est comme ça. Xavier, c'est un athlète dans sa façon de diriger l'entreprise. Mais vous aussi, Sandra, dans la façon de faire. Combien vous avez d'activités par jour? Vous êtes à Lyon, vous êtes à Paris, vous êtes sur les tournages, vous écrivez un bouquin, vous êtes invité 40 millions de fois sur des émissions de télé. En plus, elle est engagée dans l'association des agents immobiliers Onze du Cœur. Parce qu'en plus, vous prenez du temps libre. Vous avez aussi une famille. Voilà.
Et c'est
voilà. C'est-à-dire que vous êtes d'accord qu'on s'impose également une certaine rigueur?
Oui, bien sûr. Bah après, on s'impose une rigueur, on veut montrer l'exemple et puis on veut réussir aussi pour soi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai un groupe à mener, on a un objectif qui est commun. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, j'entendais un petit peu comment on recrute, etc. Et avoir un cap. Moi, quelqu'un qui vient chez moi, il doit avoir deux objectifs. Il doit avoir un objectif perso, c'est-à-dire réussir pour lui-même, faire de l'argent, parce que moi, j'ai aucun mal à parler d'argent. Mais il doit aussi avoir un objectif commun, c'est faire réussir l'entreprise. Et c'est vrai que nous, on a un objectif qui est très élevé dans mon groupe. On a envie de réussir, on a envie de manger le marché, on a envie d'aller loin, on a envie d'être vu, on a envie d'être fort. Et je veux que mes collaborateurs s'intègrent pleinement dans cet objectif, mais qu'eux aussi soient exigeants pour eux-mêmes, pour réussir à titre perso. C'est super important. Et c'est, on va dire, cette alliance des deux objectifs qui fait qu'on arrive à avoir de la performance. Ouais.
Est-ce qu'on conserve ces ressources humaines?
Moi, on n'a pas de turnover chez nous. On a énormément de chance.
Là, vous êtes?
Là, on est 60.
Vous n'avez pas de turnover?
On n'a pas de turnover. Moi, j'ai des négociateurs, ils sont chez moi depuis qu'on a créé le groupe. Et j'en suis très fier. Le seul turnover qu'on peut avoir, c'est quand on intègre des nouveaux. Le seul moment, on va dire, où on a un petit peu de turnover, c'est quand on intègre quelqu'un parce que on fait un entretien, on lui dit voilà, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. La personne est motivée, ça matche bien, on recrute la personne et au final, il y a la réalité du marché, il y a l'exigence qu'il faut avoir dans ce métier pour réussir et on voit tout de suite quelqu'un qui va être picousé, qui va aimer ce métier, à quelqu'un qui, au final, va faire les tâches plus par contrainte.
Mais comment vous le détectez, ça?
Ça se ressent. Déjà, je vais être franc, quelqu'un qui va arriver 2-3 fois en retard dès le premier mois, pour moi, c'est rédhibitoire. Merci, au revoir.
Désolé, ça me rappelle un souvenir, parce que j'ai appris à évoluer, mais ma première entreprise, j'attendais les collaborateurs à 9h devant la porte.
Pour voir s'ils arrivaient.
À 9h05, tous ceux qui arrivaient après, je disais, tu rentres chez toi.
Ah non, mais moi là-dessus, pour moi,
c'est une demi-journée décomptée. Mais bon, voilà.
On a justement ce côté professionnel que vous avez évolué et que vous avez évoqué. J'aimerais qu'on écoute, qu'on vous écoute, Alexandre Butin, les nouvelles générations. Alors, je vais être très clair. Moi, je fais partie d'une génération comme tous les personnes. Qui ont un certain âge. Quand j'avais 20 ans, je disais c'est vieux con. Voilà, ils n'ont rien compris, la musique, etc. Mon père, il me parlait de Vincent Scotto, je savais même pas qui c'était. Enfin, bon. Et maintenant, quand je leur parle des tubes des années 90, les gamins, ils disent Ziggy, etc. Même Casimir, ils ne savent plus qui c'est. Bon bref. On dit que les jeunes générations travaillent moins. Oui, je sais que c'est une litanie hein, qu'ils sont moins impliqués, qu'ils sont plus à faire du vélo, manger des graines, etc. Wokisme, etc. On lave plus blanc que blanc, cet esprit du collectif les anime plus ou moins. Est-ce qu'elles sont inclines ou pas à travailler sur ces modèles-là? Qu'est-ce que le sociologue aujourd'hui détecte dans l'esprit de la génération?
Alors, c'est vrai, dans les sciences sociales, on parle peu souvent, enfin, on va pas utiliser la classification de génération, parce que derrière une même tranche d'âge, on va avoir des individus, quelquefois, qui ont des origines
hétérogènes,
qui ont des origines professionnelles, ou des origines sociales, plutôt, ou des parcours professionnels, pour être plus clair.
L'appelez comment, du coup? Par quoi vous remplacez ça?
On va essayer de prendre différents critères, différents, on pourrait parler, si on prend les termes de Bourdieu, de différents capitaux sociaux, donc le capital social, culturel, et la tranche d'âge peut être un élément qui participe, mais elle n'est pas forcément déterminante, en fait. Donc, par exemple, ce que moi j'ai pu observer, ou ce qu'on peut observer dans la sociologie et la sociologie du travail, c'est que, avec les nouvelles organisations qu'on a, comme le flex-office ou le télétravail, l'âge ne définit pas vraiment comment on va appréhender le télétravail, par exemple. Ça va plutôt être on a des très bonnes études, par exemple sur l'appropriation du télétravail, qui va un peu varier plutôt selon la catégorie des individus, donc leur statut au sein de l'entreprise, s'ils sont cadres, employés, donc de catégorie C, catégorie B, etc. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que... je me perds un peu dans mes propos, mais désolé, mais...
Non, mais on vous entend bien.
C'est que aussi, ce qui va jouer aussi, c'est la forme du collectif par rapport à l'appropriation des outils numériques qu'on va avoir à cause du télétravail.
Ah d'accord.
Voilà, par exemple.
C'est-à-dire que l'esprit du collectif peut également être mis en relief avec la somme des outils techniques qui permettent de créer du lien entre tous. C'est ça l'idée?
Alors oui, c'est que la mise en place de ces nouvelles organisations n'est possible que par le développement des outils numériques, des outils de communication. Et il y a quelques études qui montrent justement comment les individus s'approprient et comment elles permettent de conserver le lien ou pas. Et on s'aperçoit en fait que quand il y a un collectif fort, donc quand les personnes sont souvent amenées à travailler ensemble, à collaborer, et ont des relations régulières et de proximité, c'est que ces outils permettent effectivement de conserver, voire de renforcer le lien. Il y a vraiment une forme de collaboration.
C'est intéressant, ça. C'est très intéressant.
À l'inverse, quand on parle plutôt d'un collectif faible, donc c'est-à-dire quand les échanges sont plutôt ponctuels, donc c'est comme des équipes projets ou des choses comme ça.
Oui, ou sporadiques.
C'est que ces outils-là donc vont potentiellement plutôt affaiblir les liens, les relations entre les individus, puisqu'on va plutôt être dans une forme de pas de collaboration, mais ça va être plutôt des outils pour, enfin les outils vont plutôt servir pour vérifier si c'est bien fait, enfin voilà, ajuster.
Ouais.
Et on va pas recréer des succursales ou des voilà. Donc comme on a maintenant, vous savez, sur les applis, enfin sur les outils qu'on utilise, on a plusieurs petites salles qu'on peut créer à droite, à gauche, etc.
Exact.
Quand il y a un collectif métier ou un collectif fort, souvent là on s'approprie, il y a une vraie collaboration.
C'est passionnant ce que vous dites, parce qu'en fait je vois deux choses. Alors réaction des managers, hein, forcément. Je résume, les outils numériques ancrent et favorisent la qualité des échanges à partir d'un collectif fort, puissant, dans lequel les relations ne sont pas sporadiques, mais elles sont quotidiennes et elles sont échangeantes, entre guillemets. Et donc, à mon avis, l'incarnation du manager est essentielle. À l'inverse, lorsque les relations en mode projet sont plutôt coopératives ou collaborationnistes, entre guillemets, sans faire de mauvais jeu de mots, les outils numériques distendent la relation et on l'est plus dans le contrôle et le reporting.
C'est ça.
Ouais, pour c'est hyper intéressant, je ne l'avais jamais entendu. Je peux avoir votre réflexion là-dessus. On va commencer par Xavier. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord?
Sur une partie, oui. Parce qu'en réalité, je pense tout simplement à ce que
j'ai... On parle d'études qui ont été faites.
Je pense au quotidien, sur une partie, je suis assez d'accord. Je m'aperçois aujourd'hui qu'on a des outils collaboratifs. Nous, par exemple, au siège, on utilise Slack. C'est parfait, c'est très bien, ça nous permet de créer du lien, etc.
Donc Slack, c'est un outil de...
C'est un outil de conversationnel, mais qui nous permet aussi de partager des documents, de lancer un peu les visios. C'est un Teams amélioré, on va dire, voilà, pour faire très
d'accord,
simple.
Okay.
Ou un Google Meet amélioré à tout l'espace Google. Et avec... j'ai différentes commissions métiers, etc., qui ont lieu avec mes agents immobiliers. Et derrière, en fait, dans les agents, on a des chats en direct. Voilà. Et là-dessus, en réalité, moi, je suis un peu moins d'accord, c'est-à-dire, et je le vois, en tout cas, dans mon business à moi, et pas, à mon avis, il n'y a pas que dans mon business, c'est quand on parle de télétravail aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, par exemple, mes équipes sont télétravail le lundi, vendredi, j'ai aucun stress avec ça, parce qu'en l'occurrence, je pars du principe que le collaborateur, il est managé à la tâche. Voilà. Ou demain, si c'est un sales, il est managé tout simplement à son objectif de chiffre. Voilà. Et à la fois, t'as ce qu'on appelle un objectif individuel et un objectif de groupe.
Ok, sales, c'est un vendeur.
C'est un vendeur. D'accord. Voilà. Ça nous permet d'avoir les deux. C'est un commercial. Voilà. Là où il y a quelque chose qui se passe, je trouve, en tout cas, je remarque de plus en plus que quand tu commences dans les entreprises à avoir taux de télétravail ou des télétravails qui sont très décalés, avec des personnes qui sont vendredi, lundi, puis d'autres qui sont en plus le mardi, jeudi. Et quand en réalité, t'as plus tes équipes en place dans la semaine, à minima, là, ça devient, moi, je le trouve, très compliqué en termes de dispersion, en tout cas d'énergie, et même d'ambiance, etc. Tu sens que c'est beaucoup plus individualiste, c'est pas pareil, et ça, c'est plus difficile. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je m'en aperçois. Aujourd'hui, on voit bien que les recherches en immobilier sont beaucoup reparties, et qu'on a plein d'entreprises qui veulent faire revenir leurs collaborateurs en leurs sièges sociaux, parce qu'ils rencontrent des problématiques quoi de performance.
Mais c'est quoi votre...
Et la performance, comme l'argent, c'est pas un gros mot. Voilà. Et du coup, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que je trouve qu'arrive un moment... Les outils, le distanciel, c'est bien, mais on va même jusqu'à l'avatarisation, etc. dans l'immobilier, je trouve ça parfait. Mais arrive un moment, il faut bien qu'il y ait une relation qui soit faite avec un client, un conseiller, et ou alors une entreprise, sinon les projets sortent pas. Voilà, par exemple, c'est un avis.
Est-ce qu'il est connecté, notre ami Romain Cartier ? Voilà, l'agent immobilier par excellence qui est avec nous. Salut Romain.
Bonjour Sylvain, salut tout le monde.
Comment ça
bonjour
va Romain. Alors, voilà, tout le monde l'entend bien, on est ravis. Romain, je te présente Dan Adler, mais je pense que tu sais déjà qui il est, voilà. Je ne te présente pas Sandra Virissel, qui est avec nous. Sur le plateau, nous avons un sociologue avec Alexandre Butin, et bien sûr, l'hôte de ces lieux avec lequel on a produit l'émission, c'est Xavier Bellevaux pour WeInvest. Je voulais te poser une question, Romain. Tu as écouté un petit peu ce qu'on a dit. Est-ce que il y a justement, à l'inverse des modèles que l'on pourrait imaginer, une vraie puissance dans l'esprit de l'intelligence collective, dans l'esprit de travailler en collectif, et comment finalement le manager, entre ses valeurs propres qui lui sont propres, arrive à instiller ou à impulser finalement son niveau d'exigence à un collectif pour faire fonctionner l'entreprise, mais pas que, mais c'est aussi transmettre les savoirs, comme le disaient Dan Adler et Sandra Virissel, c'est aussi favoriser l'émergence des nouveaux talents, ou par exemple, comme le disait également Xavier Bellevaux, peut-être aussi accompagner les gens dans d'autres vies, et les accompagner également sur des nouveaux choix professionnels. C'est quoi ton avis sur cette question ?
Alors évidemment, tout ce que tu dis est très juste, et tout ça est presque un art au quotidien, hein, de pouvoir conjuguer... toutes ces choses-là. Je pense que l'unicité et la singularité des individus aujourd'hui font la force d'une entreprise. Et ce qui fait que ce collectif, il est tellement important aujourd'hui parce qu'on a des compétences, on a des degrés qu'on va pouvoir justement mettre en œuvre. Et l'union a toujours fait la force, mais plus que jamais, dans un métier à la fois concurrentiel et parfois anxiogène, il est capital aujourd'hui d'avoir des forces différentes au sein d'une entreprise qui vont apporter une lumière et un esprit un petit peu spécifique en fonction des individus, en fonction des projets d'achat, de vente, etc. Donc, c'est capital. Et je crois qu'aujourd'hui, et plus que jamais, dans un monde, Xavier le soulevait tout à l'heure, où on a connu une période de télétravail, donc de travail distanciel, etc. Et j'en parlais avec les équipes dans lesquelles je suis aujourd'hui. Justement, ce matin, c'était le sujet du jour, c'est qu'il n'y a pas d'excès de communication. Jamais. Ce qui fait parfois défaut, justement, c'est le fait de ne pas forcément communiquer sur un sujet parce qu'on pense que ce dernier, il est acquis ou ça n'a pas une importance spécifique. Et je pense qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Ceux qui réussissent, en tout cas les entreprises que j'ai la chance de consulter et avec lesquelles on travaille, sont des entreprises qui sont plutôt structurées justement dans cet esprit-là de communication, mais active, une communication productive qui fait que demain, chaque collaborateur va avoir la sensation d'une part d'être écouté et puis de pouvoir transmettre dans les meilleures conditions les intentions d'évolution, les intentions de modification. Et ça, c'est capital dans un métier comme le nôtre aujourd'hui. On le sait, on l'explique à nos clients que la communication, elle est de mise dans tout ce qu'on fait. Eh bien, pour faire grandir une entreprise, pour que le collectif soit vraiment à l'exigence qu'on lui demande, c'est de pouvoir communiquer de manière forte et pérenne.
Le rôle du manager, Romain, il est essentiel. Il n'y a pas de distinction. Oui. On parlait des valeurs personnelles, de la façon dont on vit perso, dont on gère sa vie, dans son équilibre, qu'il y a une vraie porosité. Et on est finalement à l'intérieur ce qu'on est à l'extérieur. Le rôle du manager pour arc-bouter, mettre en relief ce que tu viens de nous dire, il est essentiel. C'est un peu l'artère fémorale du dispositif, quoi.
Mais tellement, et c'est bien la raison pour laquelle c'est tellement compliqué aujourd'hui de proposer un poste à une personne en tant que manager, parce que manager des gens, c'est les accompagner, c'est être avec eux, c'est pouvoir prendre des décisions avec eux, c'est parfois parler pour eux, c'est un rôle capital. C'est pas écrit dans les livres, hein. Moi, on me demande tout le temps justement des méthodes de formation pour manager les gens. Si ça l'était, on se serait fait bien évidemment tous beaucoup d'argent depuis ça. C'est pas du tout écrit dans les livres. On compose en fonction des individus, toujours en fonction des situations. Il y a des moments où ça sera plus simple que d'autres, mais c'est comme l'éducation. Voilà, on apprend tout le temps et tous les jours, et on fait en fonction et on fait de son mieux. C'est ce que je viens de terminer là mon discours avec une de mes équipes où j'ai dit, tu sais, en réalité, il n'y a pas de règle. On fera du mieux qu'on peut en pensant que c'est la meilleure solution. On ne sera jamais dans la perfection. Et bien malin celui qui est capable aujourd'hui d'écrire la façon de manager une équipe pour que ça fonctionne bien. On compose avec tous les aléas que comporte la vie. Et n'oubliez pas une chose, c'est que quand on est dans le management, on gère des personnes et on gère avant tout de l'émotionnel. Et pour être bien capable justement d'appréhender cet émotionnel, il faut être proche des gens. Et ensuite, on compose.
C'est très clair. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de bon sens dans ce que nous dit Romain. Romain, je sais que tu peux pas rester, mais il fallait qu'on t'écoute pour partager ce moment avec toi. Voilà, on te salue, on te laisse aller dans tes multiples tâches et on se retrouve très rapidement sur les plateaux. Merci.
Merci,
voilà.
Une belle fin d'année à tous.
Merci. Merci. Je vous embrasse. Voilà, c'était Romain Ciao. Cartier. Alexandre Butin, justement, d'un point de vue sociologique, les métiers de l'automobile sont des métiers relationnels par essence. Est-ce qu'il y a alors, question, différence entre les métiers relationnels métier et les métiers, on va dire, un peu plus techniques, on va dire un peu plus back-office, hein, je peux dire les choses comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en relation avec la clientèle. Est-ce qu'ils basculent, dès lors qu'on est dans le relationnel, forcément d'un modèle individuel à un modèle collectif?
Mais c'est que,
par nature.
Oui. Alors, c'est que surtout, on va de plus en plus vers des métiers, des fonctionnements collaboratifs, ce qu'on peut observer dans...
Indépendamment de l'immobilier, vous voulez dire
L'immobilier compris.
C'est dans l'économie des services,
ouais.
On va de plus en plus, la génération, j'aime pas, oui, l'époque, va de plus en plus vers modèles collaboratifs.
Pour tout le service, pour tous les métiers services, c'est un peu large et je vais peut-être pas me prononcer puisque je suis pas forcément le spécialiste. Mais surtout sur les métiers d'immobilier, on va dire métiers d'immobilier et du bâtiment, ce qu'on peut observer dans sociologie, mais comme aussi dans d'autres sciences comme en architecture, c'est qu'il y a une explosion depuis 50 ans des métiers de la maîtrise d'œuvre, donc architecte, ingénieur, etc. Du coup, maintenant, on a une diversité de professionnels qui se placent soit sur le marché de la maîtrise d'ouvrage, soit sur le marché de la maîtrise d'œuvre, et ce qui rend de plus en plus complexe les collaborations entre ces différents individus. Mais il y en a, du coup, la question est de savoir comment on arrive à les faire travailler
ensemble.
À favoriser cette intelligence
et à dialoguer
collective.
Avec des disciplines parfois qui se parlaient pas.
Où on voit surtout aussi émerger beaucoup d'outils ou nouvelles méthodologies. Donc vous avez sûrement vu les méthodes BIM ou les jumeaux numériques qui permettent pour les gros volumes de pouvoir traiter les bâtiments et de pouvoir permettre à tous les services, tous les métiers de l'IMO comme de la conception, de pouvoir travailler ensemble. On a aussi certaines figures professionnelles qui émergent, qui viennent un peu remplacer la figure de l'architecte, comme ce qu'on appelle les contracteurs généraux, j'ai perdu le terme, mais les directeurs de projet,
oui. Des choses comme ça. Ou les assistants à la maîtrise d'ouvrage, voilà, par exemple.
Qui essayent de coordonner tout ça et qui sont quelquefois c'est assez complexe et compliqué.
Et qui centralisent d'ailleurs pour travailler la collaboration technique. Oui. On a mis en place le Building Information Model. là, ce qu'on appelle le mode BIM, en fait, c'est une méthodologie technique qui permet d'implémenter toutes les disciplines et finalement d'optimiser, par exemple, la porosité de la communication interchantier sur les différents corps de métier. Effectivement, ça a été une révolution.
Ça, et là, on a même une nouvelle révolution qui arrive avec l'intelligence artificielle.
Bien sûr.
Ce qu'on a, ça qui développe encore, qui permet le développement de nouveaux outils d'aide à la décision. Mmh. Qui permettent, là je parle un peu pour...
Alors c'est vrai que ça a décloisonné, ça a rendu inerte finalement cette puissance parfois délétère qui était sur des chantiers, mm-hmm. et on le voit même en pratique, amélioration des coûts de construction, amélioration des délais de livraison, meilleure communication, meilleur matériau, enfin, c'est phénoménal.
Oui, là on a même des outils avec l'usage de l'intelligence artificielle qui permettent quelquefois d'automatiser ce qu'on va appeler les plans d'aménagement, enfin les plans d'organisation, le space planning, ou même pour des agents, alors plutôt des brokers, puisque c'est plutôt sur des grosses surfaces, mais de bureaux, de pouvoir aussi évaluer l'efficience de l'immeuble, donc savoir si on veut mettre 100 personnes ou 500 personnes dans cet immeuble, est-ce que c'est possible ? Et avec l'IA, on peut rentrer rapidement 2-3 informations et on a des logiciels qui permettent de calculer si le bâtiment est efficient, si on peut effectivement mettre toute la population. Mmh. Et du coup, ça améliore.
D'autant plus que c'est réglementé, on appelle ça les URP,
c'est ça, ouais.
Les établissements qui reçoivent le public et qui sont normalisés. Mais là, l'IA, justement, a intégré toutes ces données et restitue le résultat en 3 mots, c'est phénoménal.
Ça, en quelques secondes ou sur des choses qui pouvaient prendre plusieurs semaines,
bien
ce qui
sûr.
Permet maintenant de facilement discuter avec les interlocuteurs, avec les autres métiers sur les solutions à prendre et voilà, donc qui améliore justement la collaboration.
Donc l'importance, merci Alexandre pour cette précision, l'importance des outils. Sandra, on fait comment pour créer une culture collective dans un groupe, dans un métier où l'ego, tu sais mieux que personne parce que tu fais également de la télé où tu t'exposes, hein, c'est un risque, hein, de s'exposer au public aussi.
Ah,
et je sais que même si on apprécie beaucoup ta vitalité dans la profession, il y a quelques personnes qui ont un peu de jalousie. Mais voilà, non mais à la limite, vaut mieux créer un peu de jalousie que de l'indifférence, hein, comme dirait l'autre. Mais justement, comment on fait pour avoir la culture collective dans un métier où un, on a de l'ego, la liberté et l'esprit de compétition sont hyper présents?
Je pense qu'en fait, il faut prendre régulièrement le pouls de ton équipe. Il faut à la fois respecter les individualités, les caractères de chacun et les besoins de chacun. Ils sont tous très autonomes. Je vois, on parlait du distanciel, etc. L'idée, c'est de créer des moments de partage, des moments de cohésion, de prendre le pouls régulièrement de l'équipe pour voir quand on sent que ça se délite un peu, qu'il y a besoin de remettre de la cohésion, ou même qu'on a des collaborateurs qui sont un peu fébriles, régulièrement de recréer un esprit d'équipe et des moments de convivialité pour justement rebooster. Alors en plus, on sort d'une période compliquée, donc quand on parle d'ego, on parle aussi du fait d'être confronté parfois à ton propre reflet quand t'es commercial et puis que t'as pas de résultats, parce qu'on sort d'une période hyper compliqué et il a fallu aussi porter l'équipe pendant cette période-là, et c'est là où le collectif prend tout son sens, je trouve, parce que justement on va aller s'aider les uns les autres dans des moments où on a des baisses de régime, des baisses de confiance en soi, et en fait l'équipe va créer quelque chose, une espèce de mouvement qui va remettre la personne sur les rails et lui repermettre justement de continuer son activité et de refaire du chiffre, parce que bon, la finalité, on est bien d'accord, c'est de faire des ventes quand on est agent immobilier, mais le moral, il joue pour beaucoup quand on veut réussir.
Romain, il dit on gère de l'émotionnel.
Ah mais en permanence, en permanence. C'est-à-dire que enfin on le voit bien dans notre activité. Le matin, t'as une vente, le soir, il y en a une autre qui capote parce qu'il y a pas eu le prêt, et le lendemain, tu rentres un super mandat, et le soir, c'est ton concurrent qui l'a vendu. Donc en fait, c'est un yo-yo permanent
de résistance à l'échec et à l'usure.
Et en fait, c'est là où le collectif prend tout son sens, à la fois parce qu'on peut se reposer sur le collectif, chacun ses tâches et ses compétences, et en même temps on va aller chercher ce dont on a besoin à un instant T quand on n'est pas bien ou justement celui qui qui est dans le positif va insuffler le positif aux autres et va rebooster toute l'équipe. Donc c'est je trouve que c'est un équilibre à donner. Et l'ego là-dedans, alors je parle pour mon équipe, c'est pas des gens qui ont des gros égos, et en même temps je me dis c'est pas non plus facile de travailler avec moi, dans le sens où souvent quand les gens vont appeler, ils vont se dire on a envie de travailler avec Sandra, et l'idée c'est de dire à mon équipe, de dire non, c'est mon équipe qui prend le relais et ils sont 10 fois plus compétents que moi. Et c'est aussi toute la confiance dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai mis dans mon équipe et qui reflète ma façon de travailler et qu'ils le font
m'animer plus que moi. L'ego, c'est bien.
C'est bien, c'est important parce que ça te rebooste aussi.
On va pas se cacher. Non mais on va pas être hypocrite. On va pas être hypocrite en disant, même quand on est journaliste ou dans les métiers dans lesquels on est exposé, genre on n'a pas d'ego. Non, j'ai pas d'ego, j'ai jamais le trac.
Non, non,
non. Mais non, il faut de l'ego. Donc il y a un bon ego, quoi. Ouais.
Ego professionnel.
Oui, non mais
c'est vrai.
Non mais c'est vrai.
C'est vrai, non, voilà. C'est important. Non,
Dan, l'ego, l'esprit de compétition, c'est pas nul. C'est pas.
Moi j'adore. Moi je le dis très honnêtement, hein, c'est-à-dire que, alors chez moi c'est marrant parce que voilà, ça fait quasiment 15 ans ou 14 ans qu'on a créé notre groupe et j'ai vu un peu les évolutions des points de vente de certains directeurs qui réussissaient à faire réussir les autres et d'autres qui n'y arrivaient pas. Et j'ai pu avec le temps comprendre ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas. Alors je dis pas qu'il y a une méthodologie qui est infaillible, mais malgré tout il y a un dénominateur commun à la réussite quand vous avez des agences, c'est l'exigence. Et l'exigence envers ses collaborateurs, c'est-à-dire que nous, chez nous, c'est très humain, tout le monde s'entend super bien, il y a une énergie énorme, mais très franchement, ceux qui réussissent dans les agences, c'est parce qu'ils ont un directeur qui est très exigeant et qui a tendance justement à pas faire du management individuel.
C'est quoi un exigeant ?
L'exigence, c'est pour moi l'énergie.
C'est quoi, être ponctuel.
Alors, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire, c'est créer des actions continuellement. C'est-à-dire que quand il y a un négociateur qui est en situation d'échec, alors ça va impacter son moral, ça va impacter sa vie, ça va impacter tout son périmètre.
Un négociateur qui est en situation d'échec, c'est quelqu'un qui rentre pas de mandat, alors, ou qui rentre des mandats qui se vendent jamais, quoi.
C'est quelqu'un qui fait pas de chiffres, entre guillemets. C'est quelqu'un qui fait pas de chiffres. Pour moi, ça se cantonne à ça, parce qu'il y a des négociateurs, ils vont être très bons en sortie.
Tu fais pas de chiffres,
ils font du chiffre. Pour moi, un négociateur qui fait pas de chiffres, généralement, c'est pas qu'il a un coup de mou, c'est qu'il fait pas les actions qu'il faut faire pour réussir. On a un métier de contact, faut aller chercher les gens, faut aller prospecter, faut faire du relationnel.
Donc, t'es en train de me dire que malgré tout, un négociateur, s'il fait vraiment des tâches, il y a forcément du résultat.
Forcément. Moi, je vois aucun négociateur qui applique une méthodologie.
Dites-le au marché.
Ah, mais je le dis continuellement. Nous, chez nous, les négociateurs qui appliquent la méthodologie de A à Z, ils réussissent tous.
Pas de crise.
Non, il n'y a pas de crise. Pour ces négociateurs. Et la difficulté.
Moi, je suis aligné. Hein. J'ai 42 points de méthode. Quand il y a un problème qui ne va pas, je nous renvoie toujours à la méthode.
Non, mais c'est hyper intéressant. Je vous donne une illustration. Il fait très chaud. Quand il fait très chaud, qu'est-ce qu'on mange ? Des glaces. D'accord ? Mais on mange des glaces, elles sont pas toutes égales en termes de goût. Il fait très froid. Il y a des glaciers qui fonctionnent et qui vendent de la glace. À quoi on attribue la qualité de leur glace ? À la capacité qu'ils ont à faire de très bonnes glaces. Donc ça veut dire qu'en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que parfois, quand le marché est très ouvert, on voit pousser des agences un peu partout, comme des champignons. Et puis dès que le marché se rétracte, bizarrement, ceux-là disparaissent. Mais il reste des glaciers très implantés qui, eux, indépendamment du temps qu'il fait dehors, continuent à vendre de la glace. Je prends une illustration. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'un pro, la crise, effectivement, mais il est imperméable au cycle du marché.
Exactement. Et moi, je vais être très honnête. Hein, c'est
rare.
Pourquoi j'ai ce constat-là ? C'est qu'à un moment, nous, on a eu très chaud parce qu'on a lâché un peu tous nos principes. C'était il y a 3-4 ans. Juste avant la crise ou pendant, bon, peu importe, plutôt avant. On a tout lâché, on s'est dit voilà, on réussit bien, on développe des agences, nos négociateurs, ils cartonnent.
Et
on s'est dit, on écoutait nos négociateurs. Alors moi, je suis très, très friand des tables rondes avec mes directeurs, d'échanges d'idées, on le fait une fois par mois au minimum, et on échange. Pourquoi ? Parce qu'on arrive toujours à avoir des idées. Mais il y a un moment, on écoutait un peu trop nos directeurs qui nous ont dit voilà, peut-être que ce serait bien qu'on fasse du télétravail, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Le chiffre s'est écroulé totalement l'année d'après. Totalement. On a dit non, on remet tout à plat, on retourne à fond. Et au final, en 2024, qui a priori a été plutôt une mauvaise année pour l'immobilier, nous, ça a été plutôt une bonne année. Et 2025, encore mieux. Mais c'est pas le fruit du hasard, c'est pas juste la notoriété, c'est pas l'image de marque, c'est pas parce que les gens ils sont bien sapés, c'est parce que on fait travailler les gens.
C'est clair. Oui. Tu voulais ajouter que...
Il y a la régularité, il y a la transparence aussi. Je sais, par exemple, souvent, mes équipes me le disent, parce que tu vois, des fois, c'est tout bête, c'était mon anniversaire il y a peu de temps, ils m'ont fait plein de cadeaux, j'étais toujours très gêné dans ces moments-là. Et une des raisons qu'ils ont tous mis en avant, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les mois, j'ai aucun problème pour éclater les chiffres, voilà, dire les choses, etc., dire quand ça va pas. Puis il y a des moments où le bébé, il a pas dormi, t'es crevé, donc le matin, t'arrives, t'as pas la bonne tête, et ben il le voit, et puis voilà, on en discute et ça se passe bien. Au-delà de ça, ce que je veux dire, moi, ce que je vois aussi changer beaucoup, c'est le recrutement. On peut tous dire ce qu'on veut, et on peut se dire qu'on a de la chance, on recrute bien, mais 70% de la profession recrute pas bien. Enfin, n'arrive pas à recruter.
Là, je suis d'accord.
C'est une vraie problématique, le recrutement.
C'est vrai.
Et pour autant...
Alors, moi, je recrute pas beaucoup.
Voilà, mais pour autant, je m'aperçois que j'ai pas de problématique de recrutement, et qu'à l'inverse, les collaborateurs ou même les dirigeants qui nous rejoignent recrutent plutôt facilement. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'il y a aussi il y a un état d'esprit du dirigeant, et il y a aussi de vivre avec son temps. Il y a 25 ans, on disait que l'immobilier, il était lié à l'agence. Le panneau devait être lié à l'agence, etc. Et aujourd'hui, tu as encore des dirigeants qui veulent être vouvoyés dans l'immobilier, qui refusent que leurs collaborateurs mettent ne serait-ce que leur numéro de téléphone sur une carte de visite, etc. C'est celui de l'agence, etc. Ça, pourquoi pas? Mais dans les faits, je pense qu'aussi, il y a une problématique d'alignement par rapport au comportement collectif. Aujourd'hui, un collaborateur, il nous rejoint pour ce qu'on dégage, pour les valeurs à la fois de l'entreprise, qui doivent, normalement doivent être les valeurs du dirigeant, si je ne dis pas trop de bêtises.
Tout à fait.
Et ben, je découvre avec le recul aujourd'hui qu'on a une vraie problématique dans notre métier, qui est plutôt quelle est l'image que l'agent immobilier pense avoir par rapport aujourd'hui à notre client final. Parce qu'on ne serait-ce que de parler de recrutement, il faut pouvoir attirer. Et souvent dans l'immobilier, on oublie quelque chose, deux choses. Je trouve la stratégie de l'entreprise. On ne sait pas l'expliquer aux collaborateurs. Où demain on va aller et avec comment on va le faire. Quel est le chemin qu'on va prendre. Une fois qu'on s'est dit ça, il y a la stratégie et il y a...
Il faudrait former les managers, tu crois?
Alors, Romain le disait, en réalité, tu peux former qui tu veux.
C'est ce que je dis, voilà
par rapport mais à... dans les faits, intrinsèquement, comme quelqu'un, quand on dit, mon grand-père faisait les marchés dans le 17e, il avait plusieurs patentes. En réalité, il y a des gens qui ont une fibre commerciale. En réalité. Et à un moment, un commercial, sans être trop, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de posticheur, il faut qu'il y ait quand même une fibre, l'envie d'avoir des clients, l'envie de partager, l'envie de faire plaisir. Ah, et il y a des personnalités qui ont des profils qui sont, je dis toujours ingénieurs, mais ce n'est pas du tout péjoratif, loin de là, je vis avec quelqu'un qui est ingénieur, donc je n'ai pas de problème. Mais c'est surtout comment on arrive à faire en sorte que la personne puisse partager son savoir. Et je crois que ça, c'est difficile.
Ben, par contre, je pense qu'un manager, ça se forme. À contrario,
ça se forme.
Non, mais je pense qu'on peut bien réussir un manager dans sa
tâche. Si tu entends Romain, il y a des qualités intrinsèques. En fait, il dit, y en a qui sont prêts pour être des leaders et d'autres pas.
Mais ouais, ça peut, tout le monde peut pas être manager. Totalement différents, avec des profils, mais qui n'ont rien à voir. Et par contre, ils arrivent à faire réussir. Et j'en ai eu quelques-uns qui n'arrivaient pas. Et pourtant, ils avaient un tempérament très commercial. C'est pour moi vraiment le dénominateur commun de la réussite à un manager, c'est le degré d'exigence qu'il va mettre pour son équipe. C'est-à-dire faire en sorte de faire réussir l'autre sans faire à sa place.
Je suis un peu différent. Alors, là-dessus, parce qu'en réalité, l'exigence, en réalité, quand tu rentres dans une entreprise, quel qu'il soit, dans tes entretiens, la manière dont tu viens dans l'entreprise, tu sais si l'entreprise est exigeante ou pas.
Ouais, c'est vrai, mais après, forcément, les directeurs qui ont managé n'ont pas forcément. Enfin, voilà, on est tous humains, on ressent les choses, et quand on a quelqu'un qui est en difficulté.
Dan, toi, dès le début, je t'ai vu t'installer, t'aurais pu créer une agence ou deux, et avec Laetitia, ça aurait très bien marché. Mais vous aviez tout de suite l'idée d'un réseau.
Ah, nous, c'était très clair. C'est-à-dire,
justement, je profite que Sandra soit à côté. Sandra, t'aurais pu monter ton réseau?
J'aurais pu.
Sans problème. En plus, elle aurait eu tous les partenaires de la Terre. Il y avait une idée de travailler comme ça avec une petite équipe.
C'était ton ambition en tant que patronne. En fait, moi, je me reconnais dans la taille de mon équipe aujourd'hui et je suis heureuse de travailler comme je travaille. Et je pense qu'il faut s'écouter aussi soi-même. Vous avez des ambitions qui sont exceptionnelles et je...
Non, mais ton ambition n'était pas de créer un réseau qui s'appelait...
Mon ambition, c'était pas ça du tout. Voilà. Okay. Moi, j'avais pour ambition de créer l'équipe que j'ai actuellement. Et tu vois, on parle de recrutement. Je fais grandir mon équipe, mais tout petit, de manière assez, ponctuelle. Voilà. Je fais rentrer un élément à chaque fois qui va s'adapter à l'équipe. comme tu disais, souvent on se rend compte très vite si ça passe ou si ça casse. Et une fois qu'il est intégré, bah, l'équipe grossit comme ça. Mais c'est, après, c'est ma façon de faire. Et c'est comme ça que moi, je suis bien et que mon équipe est bien. Et je pense qu'ici, ils travaillent avec moi. C'est parce qu'ils sont justement très heureux d'évoluer dans ce contexte-là. Après, je conçois tout à fait qu'on puisse avoir envie d'une taille supérieure. Ce n'était pas mon cas.
Alors, c'est intéressant pourquoi je voulais vous faire parler de cela, parce que on voit bien qu'en fonction des ambitions individuelles, on a l'entreprise que l'on veut avoir. Sandra, elle est heureuse dans ce qu'elle fait. Et ce que, je pense que ce qui est important, c'est que tu sois heureux avec Laetitia dans ce que tu fais. Que tu aies 30, 40 agences. Xavier, il est fait pour avoir des dizaines, voire des centaines d'agences. C'est son truc à lui. Parce qu'il est fait pour ça. Et être bien dans la position que l'on est. On va devoir se quitter. Je vais vous demander un mot à chacun. Quel serait, pour vous, en choisissant, alors je sais que c'est pas évident, une qualité que doit avoir justement un manager pour aller vers cette force collective? Tu dirais quoi, toi, Xavier? La première
la
qualité.
La transparence.
Ouais, je vais dire une phrase. Savoir faire réussir les autres sans faire à leur place.
Un mot.
Un mot. Exigence.
Attends, exigeant. Exigeant. C'est que ça te va bien, ça, exigeant. Ça te va bien.
J'aime bien ce mot chez toi. Donc, ça va très bien.
Sandra.
Et moi, je dirais écoute.
Écoute. C'est drôle, hein. Ces mots vous correspondent incroyablement. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Merci. Et Alexandre, en tant qu'intellectuel et sociologue, vous diriez quoi, vous?
Parce que nous, on
communication.
Est
bêtes.
Communication.
Avec un mot.
Peut-être. Communication. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Merci Alexandre Butin, sociologue, chercheur sur ces espaces, justement, sur comment on travaille sur des modèles d'organisation. J'ai beaucoup aimé l'idée, et d'ailleurs je vais essayer de ne pas utiliser le mot génération, et c'est vrai que Bourdieu, quand il parle du capital social et du capital humain, il a vraiment raison, parce que c'est aussi une façon dont on est déterminé différemment chacun. On a tous été déterminés différemment. Sandra, à son agence, t'habites aussi à Tassin, je crois, non? Non.
Pas très loin, ouais.
Pas très... Bon, elle habite à Tassin, la demi-lune, et à côté, il n'y a pas très loin une zone. Il y a une zone pas terrible qui s'est améliorée, qui s'appelle la Duchère, où je suis né. Et ben, à 10 minutes de voiture, ben, t'as pas la même vie. Voilà. Et c'est vrai que si j'étais né à Tassin, grandi à Tassin, j'aurais pas eu le même destin que quand j'ai grandi à la Sauvegarde ou à Balmont, à la Duchère. Donc, comme quoi, finalement, de là d'où on vient détermine également les parcours. Merci Alexandre Butin pour ces précisions. Merci Sandra Viricelle pour Sandra Viricelle Immobilier. On vous retrouve bientôt à la télé, à la radio, un peu partout. En tout cas, c'est toujours un plaisir, un régal de vous avoir. Et en plus, vous êtes toujours resté aussi accessible et humble. Et ça, c'est vraiment la marque des gens qui ont une intelligence du cœur. Merci en tout cas. Un immense merci à Dan. Il change pas, Dan. Hein, c'est incroyable. Tu t'améliores avec le temps comme c'est pas
merci,
permis.
Toi aussi.
Voilà, vraiment extraordinaire. Top. Dan et Laetitia Adler avec les fondateurs de De Ferla Immobilier. Je le rappelle, ils ne sont pas uniquement sur la rive droite ou sur la rive gauche, ils sont partout. Voilà.
Maintenant, oui.
Voilà, maintenant, parce que fut une époque, voilà, on disait, on l'appelait Monsieur Montparnasse, tu sais, il était là-bas entre le. Oui, c'est pour dire que c'est magnifique, hein. Le quartier s'est vraiment littéralement transformé. De Ferla Immobilier avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité. Et je voudrais juste rajouter que même si effectivement il y a beaucoup de prestige et de luxe chez De Ferla, tout le monde, et c'est accessible à tous.
Ah bah c'est
et pour... tout le monde peut postuler.
Tout le monde, au contraire.
Et postuler. Quel que soit l'âge, parce que je sais que tu prends tout le monde, parce que pour toi, c'est d'abord le savoir-être qui compte.
Exactement.
Voilà. Exactement. Merci beaucoup d'être venu à cette émission. Un immense merci à Xavier Bellevaux, bien évidemment. On a une petite séquence qui s'appelle Le Vrai du Faux. Vous savez, dans l'émission, on a deux autres séquences. Le Vrai du Faux, on va voir le patron des partenariats de Meilleur Taux qui va nous répondre justement sur les taux, parce qu'il y a quand même un sujet autour. Et Xavier, il souhaite aussi, dans chaque émission, mettre une start-up à l'honneur. Voilà, on va parler de justement du lab, une petite séquence dans laquelle on va mettre à l'honneur une initiative faite par les frères Fortin. Voilà, je peux le dire comme ça, les frères Fortin.
Ça leur va bien.
Voilà, les frères Fortin. Bon, ils jouent pas au ping-pong ceux-là, mais ils ont créé mon hub IMO. On va en parler tout de suite. Voilà, merci à
merci
vous.
Beaucoup.
Et
merci
on enchaîne
beaucoup.
Tout de suite merci avec beaucoup. Le Vrai du Faux. Et bien de retour sur le plateau pour cette 10e édition de Débat IMO, c'est notre séquence Le Vrai du Faux, puisque dans chaque numéro, mon cher Xavier, on pose la question à des professionnels, des experts, des questions, on leur dit c'est vrai, c'est faux, et ils nous donnent très concrètement des réponses. Pour y voir plus clair sur le niveau actuel des taux d'emprunt et sur les idées reçues que l'on peut avoir sur le crédit immobilier, on a le plaisir d'accueillir, il est avec nous à distance, et il est en visio, Guillaume Fourth, qui est directeur des partenariats bancaires chez Meilleur Taux. Merci d'être avec nous pour démêler ensemble le vrai du faux. Bonjour Guillaume.
Bonjour, bonjour à tous, avec plaisir.
Merci. Alors, l'exercice, vrai ou faux, les taux, je vous pose la question, les taux ont réellement entamé une baisse durable. Je complète la question. On entend beaucoup dire que les taux sont repartis à la baisse et que la tendance devrait se poursuivre. Est-ce que c'est une réalité durable ou c'est simplement une accalmie conjoncturelle, Guillaume ?
Alors, concernant les taux ont réellement entamé une baisse durable, la réponse est faux. C'est faux. On a une respiration après la flambée de 2022-2023, mais parler d'une baisse durable, c'est assez trompeur. Aujourd'hui, on est autour de 3,35 sur 25 ans. Ce qui a changé, c'est que la hausse en fait des taux s'est arrêtée. La Banque Centrale Européenne maintient ses taux directeurs. En clair, on est sur une stabilisation et pas sur une tendance baissière.
D'accord. Alors, merci, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il faut être très vigilant, et donc on n'est pas à l'abri, effectivement, de repartir à la hausse. Vrai ou faux, est-ce que les banques ont réouvert les vannes du crédit ?
Alors, faux, mais il y a du mieux. Les banques financent à nouveau, mais elles restent prudentes. Elles restent prudentes. En fait, elles privilégient des profils solides, revenus stables, épargne régulière, gestion saine des comptes. C'est pas le retour au crédit facile, mais
est-ce que c'est plus simple, est-ce que Guillaume, c'est juste plus simple à périmètre constant d'avoir un crédit immobilier en ce moment par rapport à il y a un an?
Alors par rapport à il y a un an, oui, clairement. Oui. Concrètement, c'est plus simple. Maintenant, ce qui est demandé par les banques, c'est voilà, dossier préparé, suffisamment d'apport, de l'épargne résiduelle, voilà, c'est ce qui fera la différence. Okay.
Donc vrai ou faux, un bon dossier peut faire la différence, mais je pense que la réponse est dans la question.
La réponse est vraie,
allez, clairement. Bien sûr. Alors certains affirment que la qualité du dossier, revenu, reste à vivre, apport, permet également, en plus, d'avoir un taux significatif, bien meilleur que la moyenne du marché. C'est toujours vrai ça ?
Alors, c'est toujours vrai. La qualité du dossier, c'est un levier primordial. Hein. Les banques sont sélectives et puis donc, elles vont largement baisser leur taux de barème en fonction de la qualité de ces dossiers.
On peut avoir un exemple, un super dossier, canon, un taux d'intérêt annoncé pour le grand public, on va dire, voilà, au détail.
35-25 ans actuellement, voilà. Il y a des dossiers où nous, on arrive à sortir du 2,95.
Voilà, bon, on va dire, exactement. Voilà, 3,35. Guillaume ?
C'est exactement ça. Aujourd'hui, les taux moyens sur 25 ans, c'est 3,35. C'est pas les taux barèmes, parce que les taux barèmes sont au-dessus, hein, déjà. Donc, il y a toujours une petite négo.
Ils sont à combien, les taux barèmes ?
2,50.
3,50.
Ah oui, d'accord. Et ouais. Donc, on peut espérer 3,50, combien avec une bonne négo ?
2,95. Ça énorme, fait une belle différence. C'est énorme.
Si on calcule, si je fais une simulation sur 4 ou 500 000 euros, et c'est pas loin de 50 à 60 000 euros d'économie, là.
C'est ça, sur la durée du crédit. Ah,
ouais. C'est la chambre du petit, c'est le salon plus grand, c'est le jardin, c'est le box, enfin... Ok, on comprend mieux, merci. Alors, vrai ou faux, il vaut mieux attendre avant d'acheter si on anticipe une nouvelle baisse des taux, ou au contraire, attendez les gars, faut y aller là.
Ouais. Alors la réponse, enfin c'est un pari risqué. Hein. Là, clairement, il faut pas attendre. C'est un peu comme si on jouait à la loterie. Hein. Aujourd'hui, les taux ne vont pas s'effondrer, mais les prix de l'immobilier peuvent légèrement remonter, plus 2 à 3 % on estime peut-être sur 2026. Donc reporter son projet, ça peut coûter plus cher demain. Hein. Alors donc c'est un pari risqué.
Parce que effectivement, alors. Il y a des études qui ont démontré qu'il y a beaucoup de Français qui hésitent parce qu'ils ont connu, malheureusement pour certains, des baisses des taux anormaux. Hein. Ils ont emprunté à 1, des fois à moins de 1. Donc, ils attendent. Et il y a beaucoup d'acheteurs qui reportent leurs projets en pensant que les taux vont baisser en 2026. C'est ce que vous disiez. Alors, on est d'accord, Guillaume, faut être très clair, c'est pas forcément un bon calcul.
Hein. Non, c'est une fausse bonne idée. Hein. On reviendra jamais à des taux à 1%, hein, comme vous le citiez tout à l'heure.
Non, c'était
en revanche, les prix de l'immobilier, la pression locative risquent d'augmenter. Donc, attendre, c'est prendre le risque de payer plus cher et de baisser en pouvoir d'achat sur l'immobilier.
On pourrait même ajouter, si on devait même extrapoler, que ce qui est important, c'est pas tant le taux que le choix du logement pour sa vie, sa famille, notamment pour soit les primo-accédants, soit les personnes qui cherchent le bien de leur rêve. On est d'accord là-dessus ?
On est complètement d'accord. Il y a une règle en immobilier, hein. Quand c'est le bon moment, c'est quand un projet est prêt. À partir du moment où vous êtes prêt, il faut y aller.
Oui, c'est très clair. Ah, j'aime beaucoup.
Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'avant, on ne pouvait pas le faire, mais maintenant, on peut aussi travailler la délégation d'assurance bancaire, ce qui est devenu une obligation, une norme, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc là aussi, par moment, effectivement, il y a le taux, mais il faut aussi voir son opération dans sa globalité.
On va
préciser. Le taux est une constante, mais c'est une variable, mais ce n'est pas la seule chose qui compte. C'est un peu comme dans une entreprise, le CA et le résultat.
Oui, on peut préciser, Xavier, la délégation d'assurance de manière très pratico-pratique.
Très pratico-pratico, aujourd'hui,
avant, on signait le contrat d'assurance.
On signait le contrat à la banque.
L'assurance d'emprunt. Hein.
L'assurance d'emprunt.
Ouais, c'est-à-dire
qui coûte une somme en fonction de plein de critères, en réalité. Mais aujourd'hui, on a aussi cette capacité de pouvoir faire la délégation d'assurance qui nous permet de faire des économies
qui peuvent être substantielles. De choisir l'assureur qu'on veut.
Tout à fait.
Comment on fait
plein de choses. Il y a des courtiers en assurance qui existent, hein, des fois. Et puis, ça aussi permet, par moment, que le banquier puisse aussi revoir sa copie sur le dossier dans sa globalité. Voilà, si la banque a l'envie, comme le disait tout à l'heure Guillaume, si la banque juge que le dossier est bon et qu'elle n'a pas envie de voir partir son client.
D'accord. Question, est-ce que les banques acceptent facilement qu'on leur enlève l'assurance, même en cours de crédit ?
C'est une obligation. Enfin, je laisse Guillaume parler.
C'est une obligation, voilà. Mais ça fait partie d'une négociation. En fait, c'est le dossier complet qui est regardé. Mmh. Vous savez, aujourd'hui, les banques ne font pas d'argent, il n'y a pas de marge sur les crédits immobiliers parce que le coût de refinancement est élevé.
D'accord.
Donc, elles regardent le dossier dans sa globalité. Et forcément, les assurances font partie aussi de la négociation. Donc, tout dépend encore une fois de la qualité du dossier, mais aujourd'hui, elle l'étudie.
La question qu'on nous pose est très précise. Est-ce qu'on peut vous obliger à prendre l'assurance ? Est-ce que le banquier peut vous dire « Vous n'aurez pas votre crédit si vous ne prenez pas l'assurance chez moi ?»
Non.
C'est impossible.
C'est plus possible.
Non,
parce qu'on a des dossiers sur lesquels on a des clients qui avaient emprunté, qui ont changé d'assurance, et la loi Lemoine qui leur a permis de changer l'assurance. Donc, c'est-à-dire, concrètement, les amis, vous avez un contrat, vous dites, voilà, vous avez renégocié le prix du contrat chez un autre assureur, et vous avez gagné, pour certains, 40%. C'est énorme. Ça vous surprend pas, je vois.
Non, beaucoup de choses ont évolué sur les assurances, c'est-à-dire que les banques regardent la globalité du dossier et sont capables de faire des décotes pour conserver le client, des décotes, c'est-à-dire de faire des remises tarifaires sur les assurances groupes pour maintenir le client.
Oui, je suis complètement aligné avec ça. Par contre, attention aussi, parce que quand on parle de 40% de réduction, là, je me mets côté banquier, il faut aussi parler d'assurance à comparatif égal. Voilà.
D'accord.
Parce que souvent.
À prestation égale.
À prestation égale, voilà. Parce que, effectivement, c'est un vrai sujet. Souvent, on peut aussi prendre le système très simple de dire, attention, moi, j'ai une meilleure assurance, mais dans les faits, il n'y a pas forcément la même couverture.
Bien sûr.
Donc, il faut analyser, comme le disait Guillaume, son dossier dans sa globalité.
Eh bien, écoutez, bravo pour ces réponses extrêmement précises. Je rappelle, Guillaume Fourthe, que vous êtes directeur des partenariats bancaires chez Meilleur Taux, qu'on peut retrouver très facilement sur Internet. Et si on veut s'en voir plus, eh bien, vous pouvez écrire à Guillaume ou écrire à la rédaction, on vous transmettra tous les messages. Merci Guillaume.
Merci à vous.
Merci Guillaume.
Bonne fin de journée. Et puis bonne fête.
Merci à vous.
Merci.
Voilà. Et tout de suite, on va passer à la dernière séquence, juste avant la conclusion du 10e numéro de Débat Immo. On va mettre à l'honneur une start-up qui a été créée par justement les fameux frères Fortin dont on parlait tout à l'heure. On va recevoir l'un des deux sur le plateau. On va parler de Hub Immo. C'est tout de suite après ça. De retour sur le plateau, si vous prenez le podcast en course, on est dans la séquence Le Lab. Chaque mois, dans l'émission de Débat Immo, qui désormais s'est imposée dans la grille immobilière avec notre ami Xavier Bellevaux, notre coproducteur thématique, on met une start-up. Xavier, c'est important, parce que vous y tenez. Hein. Mmh. Chaque mois, tu souhaites mettre une start-up à l'honneur. Et c'est effectivement, on a pas mal égrené. Là, on va faire un focus sur une société qui a été créée, hein, une start-up qui a d'ailleurs été récompensée avec un prix. Je crois que c'est Ariane Artignan qui a décerné ce prix avec sur les Sweet Awards. C'était au Rent, il n'y a pas si longtemps. Ça s'appelle mon Hub Immo. C'est une entreprise, une start-up qui a été créée par deux frères, Cyril et Nicolas Fortin. Bonjour Cyril, bonjour Nicolas.
Bonjour, merci. Bonjour. Merci pour l'invitation.
Comment ça va ?
Ça va, c'est
voilà. Heureux les gars. Voilà, prenez bien dans le micro, Nicolas. Heureux
va,
les garçons d'être là avec nous.
Merci Xavier et vous pour l'invitation.
Voilà. Merci. Bah, écoutez, on va vous écouter justement. Qui va commencer ? Voilà, Cyril.
Allez,
mon Hub Immo. C'est quoi l'idée ?
Mon Hub Immo, c'est une plateforme collaborative qui permet de mettre en relation les professionnels de l'immobilier. Donc, du coup, c'est du partage de mandats, recherche de biens, et il y a une partie gestion à porteur d'affaires. Et on a créé également une création, donc c'est une plateforme qui permet de pouvoir prendre un rendez-vous directement sur Internet, donc prendre un rendez-vous directement avec un agent immobilier.
C'est uniquement entre pros ?
Professionnel, et c'est ouvert au grand public également.
Et c'est ouvert au grand public. Est-ce qu'on peut, alors je vais vous challenger un peu, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu une forme d'intercabinet ou pas ?
C'est un peu ça.
C'est un peu ça.
C'est un peu ça, sauf que c'est ouvert à beaucoup d'acteurs.
Donc vous avez élargi le modèle de l'intercabinet, quoi.
Exactement.
Quelque part. D'accord.
Ce qui est intéressant, Sylvain, c'est que tu peux à la fois, quand tu es agent immobilier, pouvoir poser un rendez-vous en ligne, ce qui te permet avec ton client par rapport à l'annonce, de pouvoir directement le client en ligne. Il y a le confort en réalité de la recherche. Il peut prendre son rendez-vous avec son agent. Les plages horaires sont ouvertes, un peu comme le Doctolib de l'immobilier. Au-delà de ça, tu peux partager ton bien en MLS, tout simplement. En intercabinet ou en commandat. D'accord, ça te permet un peu comme tu le fais, tu le déverses dans le fichier à mandat ou d'autres. Donc cette possibilité-là de le travailler entre interagences sur un seul et même bien qu'un agent immobilier va pouvoir récupérer en exclusivité. Donc je pense que c'est deux choses qui sont déjà assez intéressantes. Et la troisième, si je ne dis pas de bêtises...
C'est la partie gestion apporteur d'affaires.
C'est la gestion où tu peux directement avoir une solution d'apporteur d'affaires. Et effectivement, aujourd'hui, il y a différentes solutions qui existent, mais il y en a pléthore qui sont assez fermées et peu ouvertes à tous les réseaux.
Quand on dit apporteur d'affaires, le concierge qui t'envoie une affaire, pareil.
Un indicateur.
C'est exactement tout ça. À fait. C'est ça. En fait, l'idée, elle est venue, c'était très simple. Moi, je travaille dans le commerce. Et je vois énormément de personnes au quotidien. Et du coup, je me suis dit, je vais donner des cartes de visite d'une copine à moi qui est dans l'immobilier, qui est ambassadrice du projet d'ailleurs. Et du coup, je vais voir si je peux avoir du complément de revenus. J'ai commencé, et j'ai réussi du coup à avoir cette partie-là, donc la partie apporteur d'affaires. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une plateforme qui permet...
Tu veux dire qu'en donnant tes cartes de visite, les gens t'ont ramené des affaires de manière indicative?
Je donnais les cartes de visite de l'ambassade de
la copine. Et elle a généré de la demande.
C'est ça, tout à fait. Et c'est de là, où est venu mon Hub Immo, clairement.
Mais ce modèle d'indicateur d'affaires, pardonnez-moi, il existe depuis longtemps.
Ouais.
Il a toujours existé.
Sauf que du coup, moi, je voyais...
Vous avez créé une structure tech qui permet... d'industrialiser, entre guillemets, cette facilité.
C'est ça.
Je peux avoir un exemple très concret ?
Donnez-moi
un exemple concret.
La personne avec qui, du coup, je donnais des cartes de visite, donc travaille chez Naos Immobilier, et du coup, j'ai réussi, grâce à elle, à faire deux ventes. Donc du coup, j'ai récupéré 2 fois 500 euros. Donc je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire. Et d'autres personnes que je vois qui travaillent dans l'immobilier travaillent chez...
2 fois 500, juste pour avoir donné une carte de visite.
C'est
un super plan, ça.
Donc du coup, je me suis dit, on va peut-être créer une plateforme, donc j'en ai parlé à
Je vous donne ma carte de
Nicolas.
Visite, s'il y en a qui veulent faire des podcasts.
J'en ai parlé à mon frère, et du coup, on s'est dit, on va partir là-dessus.
C'est ça qui a germé, Nicolas, dans l'idée.
En fait, ouais, l'idée, comme dit Cyril, à part de là. Moi, Bimo, ça part de là. Cyril, il me dit, Émilie, elle a fait des ventes grâce à mes clients. J'ai envie de créer quelque chose de plus pro et pour en ramener plus. On va faire un groupe WhatsApp. Je dis, Cyril, non, un groupe WhatsApp, c'est chronophage. Ça risque pas de...
Puis ça avait déjà été le cas, quoi.
Ouais. Puis y a pas de traçabilité à ce moment-là. Si tu pars sur ça, ok.
Oui, traçabilité,
mais
c'est bien.
Fais quelque chose de carré. Ok. On y réfléchit, on en reparle, on se rappelle. Tous les jours, on est au téléphone ensemble avec Cyril. Même avant moi, Bimo. Et, on s'est dit, on se lance, on crée une plateforme pour les agents immobiliers, pour qu'ils récupèrent des mandats, des affaires, etc., pour leur amener du flux, du business. Et on a avancé dans la réflexion et on s'est dit, on va aller plus loin que les apporteurs d'affaires.
On va
créer
tout le
partage
monde.
De mandats, le partage de recherche client.
Tu es d'accord que le partage de mandats, ça existe déjà en soi.
Ça existe
déjà. Il y a Intercab avec la boîte IMO, il y a anciennement Amépi avec Amanda, par exemple. Mais il y a aussi Bernard Cadeau qui fait un truc.
Listigo partage plus.
Listigo. Tout le monde a en fantasme, je vous challenge, l'idée de... on va partager les trucs avec une plateforme collaborative, plateforme de partage, on va automatiser la prise de rendez-vous, automatiser ci, automatiser ça, etc. Est-ce que ça ressemble à ces modèles-là ou vous avez vraiment disrupté le...
Ça ressemble à ça, sauf que c'est un peu plus complet parce qu'il y a aussi la partie apporteur d'affaires, recherche de mandat et recherche de clients.
C'est... Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire alors, que demain, moi, je suis agent immobilier. Demain, j'ai un client qui vient me voir. Oui. Nicolas, je recherche une maison sur Saint-Malo, 5 chambres. Je veux pas de travaux sur le secteur de Rocabay. Ok, j'ai pas le bien. Je le note sur un post-it. Je cherche et on se rappelle. Le post-it, il finit peut-être ailleurs, on ne sait pas. Mais là, du coup, il s'inscrit sur Moabimo. Mmh. Il publie sa recherche. Et peut-être qu'il a un confrère du secteur qui est en train de rentrer un mandat ou qui correspond ou qui va correspondre à la recherche du client.
Mais la logique voudrait que la recherche du client se fasse sur les portails d'annonces également.
Sur les portails d'annonces type...
Type Sologé, type ouais. Bien ici, ou non.
Sauf que là, c'est centralisé sur Moabimo. Voilà. Oui, c'est ça l'avantage.
Est-ce que, vous indexez les annonces des autres portails? Parce qu'aujourd'hui, c'est possible.
Non.
Avant, ça l'a pas été, mais d'accord. Ouais. C'est pas dans la trace. Oui.
Parce que je reviens sur l'exemple de Emily, donc sur une vente qu'elle a fait. Je rencontre une dame qui du coup vient d'emménager dans le secteur de la Bretagne, plus particulièrement sur Saint-Suliac. Elle cherchait un logement sur Saint-Suliac. Et du coup, je lui dis, bah écoutez, j'ai une amie à moi qui est dans l'immobilier, qui peut justement peut-être répondre à votre demande. En temps normal, si moi j'avais été apporteur d'affaires et que mon hub IMO existait déjà, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis un mandat de recherche. J'aurais proposé, du coup,
mais mandat de recherche,
une localité.
Dans la vraie forme du mandat de recherche?
Alors, sous un...
Juridiquement?
Juridiquement.
Non. Clairement, non.
Donc, alors, attention aux mots. Non, mais je vous le dis. Hein,
recherche client. Permettre.
Voilà. Parce que quand vous dites mandat de recherche, c'est encadré ça. Juridiquement.
Mais là, avec un numéro de mandat.
Je parle sous l'autorité.
Oui, avec un numéro de mandat.
Avec un, non, donc une recherche plutôt, client.
Voilà. Une recherche.
Recherche client.
En fait, vous injectez la demande sous forme de recherche du client. D'accord.
Tout à fait. Okay. Et du coup, j'aurais pu.
Et l'agent immobilier qui pourrait lui faire un mandat de recherche.
Voilà,
tout
à fait.
Parce que juridiquement, il peut le faire.
Et là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, elle avait le bien lui proposé, et là, du coup, ça a matché automatiquement.
C'est top, ça.
Donc, c'est top.
C'est top.
Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'ils viennent à peine de lancer la solution. Elle est lancée là officiellement à partir du mois de septembre avec les premiers clients réels. Non, peut-être septembre, janvier.
Janvier. À partir du 1er janvier.
Voilà, à partir du 1er janvier. Par contre, ce que je trouve intéressant côté utilisateur, c'est que c'est simple, c'est fluide, c'est pas compliqué.
Vous l'avez utilisé.
Voilà, je l'ai utilisé en test et je trouve ça simple, fluide, c'est ergonomique. Voilà. Après, effectivement, il y a les connexions avec les portails et différents éditeurs de logiciels qui restent à faire. Mais je trouvais que le modèle, en tout cas, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on existe, qui réunissait les trois parties, était plutôt bien pensé. Et surtout, pour un agent immobilier, on a besoin de ne pas perdre de temps et que ça soit le plus simple possible si on veut que le conseiller l'utilise. C'est le cas.
L'audience, est-ce que vous dépendez de l'audience? Il faut du flux ou c'est
Il faut du flux. Plus il y aura d'agents,
comment
plus...
Comment vous attirez le flux auprès les agents? Ce n'est pas les particuliers qui viennent sur la plateforme.
Alors non, c'est les agents et les particuliers pour la partie apporteur d'affaires. D'accord. Mais la plus grosse partie, c'est les agents immobiliers.
Votre cœur, entre guillemets, business.
Professionnel de l'immobilier.
Les agents. Dernière question, c'est quoi le modèle économique de Moabimo?
Alors, Nicolas. Le modèle économique, il est très simple. On ouvre la plateforme à tous les agents, tout confondu, pour un prix d'entrée de lancement à 2 euros.
D'accord.
2 euros hors taxe.
Hors taxe par mois.
D'accord, mais c'est un abonnement.
Ça, c'est c'est une formule d'abonnement.
D'accord.
Et ensuite, on va aller ajouter
des agents. De plus en plus, les abonnements, ils en ont à la casquette.
Exactement. C'est pour ça qu'on est sur un prix, un modèle économique assez agressif pour que ce soit ouvert à tout le monde. Moi, j'ai des amis qui
donc
travaillent.
Donc, je paye 24 euros par an, quoi.
C'est ça.
Voilà. Mais à la limite, pas d'abonnement, quoi. Tu payes 24 euros à l'année.
Exactement.
Et au moins.
Voilà, au 1er janvier, j'ouvre. Je vous donne que 24 euros. À la limite, ça me coûte 3 cafés.
C'est tout à fait ça.
Et un petit déj. Et je me dis, bon, puis si je fais juste un truc, je l'ai amorti 1000 fois, quoi.
Exactement. J'ai
c'est
des amis qui sont
en fait, dans l'idée,
mais c'est intéressant aussi, ne serait-ce que pour les mandataires. Aujourd'hui, tu as beaucoup de réseaux de mandataires où les mandataires sont en offre gratuite. Parce qu'en l'occurrence, il y en a beaucoup. Alors moi, dans mon cas, on ne prend pas de personnes en reconversion, mais tu as des réseaux, tu as des personnes en reconversion et c'est bien aussi. Mais bah, effectivement, tu as peu de revenus dans un premier temps, donc je trouve ça intéressant.
Que ça soit accessible à tout le monde, c'est surtout ça.
Par agence.
Par utilisateur.
Attendez, ah oui, d'accord. Ok, donc je suis agent immobilier.
Oui.
J'ai 3 négos. Ça me coûte 3 fois 24 euros.
C'est ça.
À l'année, ce qui est rien.
À l'année.
Oui.
En une vente.
Voilà. Moi, j'ai 10 collaborateurs.
Et tu réunis 3 solutions. L'apporteur d'affaires, la prise de mandat en ligne.
Non, mais j'ai compris. J'ai 10 collaborateurs, ça me coûte 20 euros par mois.
C'est ça.
240 euros.
240.
Pas mal. Intéressant. Alors, les premiers indicateurs, ils sont bons?
Très, très bons. Les retours sont plutôt intéressants lorsqu'on fait les démos. Alors,
comme dit Xavier, Les premiers retours qu'on a, c'est fluide,
ergonomique,
très simple d'utilisation. Et un prix qui est compétitif.
Bah, c'est clair, c'est clair. Mmh. Mais pour pouvoir équilibrer vos comptes, les amis, il va falloir faire beaucoup de clients.
Exactement.
Parce que vous n'êtes payé que comme ça.
C'est ça.
Vous n'avez pas de variable.
Non.
Non.
D'accord.
On nous a dit, bah Nicolas, Cyril, il faudrait mettre des variables.
Non, mais votre point d'équilibre, il est à combien d'utilisateurs? Si je peux m'exprimer, hein, si c'est trop confidentiel, vous me le dites.
Pas du tout. Le point d'équilibre, il est à 500 utilisateurs.
Ce qui est rien.
Mais 500 fois 2. Fois 2 euros par mois.
C'est ça.
Mais ça fait, ça fait 1000 euros.
On a eu la chance d'être accompagné par une équipe
de développeurs
très.
Non mais votre objectif.
C'est en fait, avoir
des milliers d'utilisateurs, combien de clients.
Ah bien sûr, le but.
Non mais des clients payants, il en faudrait combien? 10 000.
On n'a pas de limite. Mort,
hein. Il y a 120 000 opérateurs immobiliers en France, tout compris. D'accord, dans tous les domaines et toutes classes d'actifs confondues. On va dire que dans l'immobilier résidentiel, il y a à peu près de vendeurs négo 72 000. Donc l'idée c'est quoi? D'avoir 10% de ce marché, 20% de...
Ouais, c'est à peu près, nous on vise entre 10-15%.
D'accord, ok.
Pas tout de suite.
Ok, donc à peu près entre 14 et 20 000 abonnés.
C'est ça.
Qui représenterait 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais surtout une formidable base de données.
C'est ça. On veut que Moinvimo soit une place centrale, comme une marketplace ou une place de marché, une place de village, où tous les agents immobiliers, les professionnels de l'immo vont converger.
Toute dernière question pour qu'on comprenne bien, c'est important. Xavier a posé la question, vous êtes en train de faire les API, les liens avec les portails, etc.
C'est ça, on est en train, oui.
Ouais, ça va? Ils sont OK, ça marche?
Pas tous.
Pas tous.
Non, parce qu'ils sont pas tous...
Ils sont pas tous faciles.
Notamment,
ils sont pas tous très... Comment on pourrait dire poliment?
Ils sont pas tous ouverts, mais après, ils verront bien, parce qu'aujourd'hui, les logiciels métiers qui sont pas ouverts, la vraie problématique qu'ils auront avec le temps, c'est-à-dire que les clients partiront, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de plus en plus d'avoir des API qui soient ouvertes. Donc, c'est une question de en fait, c'est qu'une question de temps. Voilà, il faut tenir le bon timing. En tout cas, merci beaucoup, c'est une belle solution.
Je voudrais ajouter aussi, petite info complémentaire. Alors, les agents immobiliers sont présents sur la plateforme, mais on veut aussi introduire les promoteurs, les lotisseurs et les notaires.
Très bonne idée.
Ça sera dans un second temps.
Très très bonne idée. Il suffit de demander à Monsieur Lévy et Monsieur Lévy providera pour vous.
Merci.
Mais on était content avec Xavier. On aime bien mettre les boîtes à l'honneur et c'est vraiment intéressant.
En tout cas, merci pour votre accueil.
Merci à vous deux, Nicolas et Cyril Fortin.
Et bon merci
pour l'aventure. De mon hub IMO. Merci pour cette séquence. Et voilà. Et il est l'heure de conclure maintenant. Merci à toutes et à tous pour cette émission. Notre super producteur Grégoire Daricot, le bien nommé. Très habillé avec un pantalon à pinces, ça c'est rare mais c'est bien. J'aurais vécu pour voir ça un jour. Merci à toute l'équipe de Radio Immo et un mot de conclusion de notre coproducteur thématique, déjà le 10e numéro de Radio Immo, Xavier Bellebeau.
Eh ben merci Sylvain, merci à vous les gars d'être venus, merci à nos invités d'avoir été là. C'est le dernier de l'année. Je suis content car je suis un tout petit peu fatigué comme tout le monde en cette fin d'année, mais j'ai été ravi de partager ces moments sur des thématiques qui changent un peu des thématiques habituelles. Voilà, ça a été très agréable. On a pu parler de beaucoup de sujets. Divers et variés, sans langue de bois, et ça fait
belle
du bien.
Collection.
Voilà, et ça fait du bien dans notre domaine, donc j'aurai plaisir à vous retrouver l'année prochaine.
En bas, justement, bien évidemment, vous nous retrouvez sur la grille de programme Xavier Bellebeau. On vous promet d'ailleurs de renouveler un peu aussi l'offre avec des choses un peu innovantes. Débat IMO, c'est une émission produite par WeInvest avec Radio IMO, à réécouter et à télécharger sur le site et l'appli de Radio IMO, ainsi que toutes les plateformes de streaming. Les fêtes de Noël approchent, c'est l'occasion de retour en famille, de vous poser, de débrancher et de penser aux gens qu'on aime, parce que ça, on n'y pense pas forcément toujours toute l'année parce qu'on est la tête dans le guidon, mais c'est aussi de penser à ceux qui souffrent, à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une famille, de partager des repas de Noël, de ceux qui sont parfois dans le froid, loin, un peu seuls. Noël, c'est aussi une façon de se reconnecter à la société, de se reconnecter avec un peu plus d'humanité. Donc à toutes et à tous, je vous souhaite une très très belle fête de Noël. Je vous souhaite de très très belles fêtes de Noël. À vous aussi, les frères Fortin.
Merci beaucoup. L'idée. Merci.
Moi, je trouve qu'il y a un truc marketing à faire. je trouve ça génial. Voilà, partagez avec votre voisin, votre lointain, mais en tout cas partagez, parce que c'est une bonne règle de vie, parce que sans affection, sans amour, nous ne sommes rien. Voilà. Donc un clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent. On passe de très très belles fêtes, prenez soin de vous et on retrouve Débat IMO, premier numéro de la saison 2026 dès janvier prochain. À très vite.
Débat IMO, une émission proposée par WeInvest, à réécouter et télécharger sur Radio IMO, Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.